Bonjour Yves Vassouline.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de La course incessante des êtres humains, mais le titre ne s'arrête pas là, puisqu'il y a la deuxième partie en sous-titre « Balloter chaque jour entre leur motivation et leur poison ». Tout est dit, si ce n'est que le livre est coupé en 12 parties, plus de 300 pages, et puis bien sûr chacune des parties est chapitrée. Alors, ça va être intéressant, hein, y compris pour ceux qui préparent leur grand oral, hein, puisqu'il y a un vivifiant cours de science nat au début, qui nous permet à tous de faire la différence entre hormones et neurones. Il fallait en passer par là pour comprendre notre fonctionnement.
Pourquoi est-ce qu'il faut en passer par là? Parce que, si vous voulez, je veux d'abord expliquer l'origine des motivations. Et j'ai montré en fait que c'est l'évolution naturelle qui a créé des motivations. Et elle a commencé par les créer en mettant en avant, en motivant les êtres vivants d'abord aux besoins fondamentaux. Et ça a été fait par les hormones, les besoins fondamentaux, parce que c'est le besoin de la faim par exemple, c'est géré par des hormones, allaiter, les hormones sexuelles, etc. Donc si vous voulez, la motivation, elle a commencé par justement les hormones et par les neurones aussi, puisque les neurones, ça permet d'être motivé, d'avoir une réaction du corps par rapport à un besoin.
Très tôt, vous faites le rapprochement association d'idées, association de perception et mémoire du corps, avec à l'appui par exemple les travaux de Pavlov.
Pavlov, il a montré que si un chien, on associait un son de cloche à sa gamelle, au moment où on donne sa gamelle, eh bien le chien, il va saliver, c'est-à-dire qu'il va avoir, il va tout de suite avoir du plaisir, il va être dans un contexte, il va être content, il va être joyeux parce que justement il attend, il va venir en plus, donc c'est une motivation vers un endroit. Et donc au bout de quelques fois, le chien, une fois qu'on a fait cette association, on fait juste le bruit de la cloche et le chien, lui, il arrive tout de suite, même s'il n'y a pas de gamelle. Alors faut pas le faire trop souvent parce que l'association va se défaire, mais ça montre, si vous voulez, comment l'association d'idées, c'est une nouvelle motivation qui est créée. D'ailleurs, nous, on le voit tous les jours en tant qu'être humain, parce que à un autre niveau que Pavlov, bien sûr, c'est que, par exemple, dans notre vie, si vous avez du plaisir à aller à la mer en vacances, ben, vous allez associer l'idée de la mer, du bleu, de la couleur bleue, l'idée des vagues, etc., au restaurant où vous allez, aux amis que vous allez retrouver, au soleil, etc. Donc, pour vous, rien que l'idée de l'eau, ça peut être un plaisir. Et ça peut être aussi une chose qui va vous motivé par exemple à aller nager, par exemple à faire la natation. Mais imaginez par exemple un autre exemple d'un marin qui a vécu au bord de la mer et toute sa famille a péri successivement dans des drames de la mer. Ben lui, l'association d'idées, elle va être totalement autre. Il n'aura pas ce plaisir, l'idée de la mer. Lui, ça va être, il ira sûrement pas à la piscine il va pas être motivé d'aller à la piscine faire la natation, a priori, hein. Donc, mais voyez, c'est pour vous montrer que l'association d'idées, ça a permis de créer des nouvelles motivations, qui sont propres à chacun, en fait. Ça explique aussi pourquoi on a tous des motivations différentes. Parce que justement, on a chacun notre propre chemin de vie qui crée nos différentes associations d'idées.
Je vous propose de passer du chien au poisson rouge, puisque également dans la révision, dans un premier temps que vous proposez au lecteur, il y a celle du fonctionnement du circuit punition-récompense. Le noyau accumbens, bien sûr, est en jeu. Vous nous expliquez comment il produit un neurotransmetteur, la dopamine, qui va apporter la notion de plaisir pour les idées bénéfiques. Et vous nous encouragez à cultiver les idées valorisées positivement.
L'évolution a créé ce qu'on appelle le circuit de la récompense et le circuit de la punition. Et là, vous parlez du circuit de la récompense avec la dopamine, qui est un circuit qui va accentuer les idées bénéfiques. Pourquoi elle va les accentuer ? Bah pour nous encourager, nous, quand je dis elle, l'évolution bien sûr, c'est pour nous motiver, nous encourager à faire cette action parce qu'elle est, on a du plaisir à la faire. Vous voyez, donc c'est, et donc en fait, le lien avec l'association d'idées, c'est que on a la faculté de faire beaucoup d'associations et ces associations peuvent, quand elles sont positives, eh ben elles vont nous donner du plaisir. Et en fait, c'est un moyen très utile, qui est d'ailleurs utilisé en musicothérapie, qui est utilisé par la méthode Vitos, qui est utilisé dans le yoga. On essaye de montrer aux personnes comment, en ayant des idées positives ou des sensations positives, ça peut être la respiration, ça peut être une position, eh bien, ça peut être écouter des sons, eh bien, on peut positiver finalement notre mental. Et c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire que on peut passer d'une situation où on est très négatif à la base, et ben grâce à ce transfert d'idées, finalement, en se forçant à faire des associations d'idées, et bien on va pouvoir positiver notre mental et notre journée. D'ailleurs, vous avez peut-être lu le livre de Florence Servan-Schreiber qui s'appelle 3 kiffs par jour. Elle conseille tout simplement de se donner 3 kiffs par jour, 3 plaisirs par jour, et de penser à la fin de notre journée ou au cours de notre journée, de dire quels sont les plaisirs que j'ai eu aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement pour ne pas laisser notre tête se remplir avec les choses négatives, avec des idées négatives, mais simplement associer, faire des associations d'idées positives, parce que c'est bénéfique pour notre corps. Et si on prend cette habitude, si on prend ces automatismes, hein, c'est une des méthodes justement qui permet de il y en a d'autres, hein, évidemment, mais ça permet effectivement de positiver notre façon d'être et notre vie.
Alors, pourquoi parfois aimer se faire peur? Apparemment, ça rentre dans la grande famille des motivations d'évasion. Et là, je suis étonné parce que ça produit là, le même effet que le sport.
Quand l'évolution a créé, alors je dis a créé, c'est une façon un raccourci de langage, évidemment, ça s'est fait autour de, par des multitudes de hasards et de mutations génétiques, mais quand l'évolution a créé le circuit de la récompense, ce qu'elle voulait, c'est nous encourager, ce qu'on disait tout à l'heure, nous encourager à faire des choses, à être motivé pour des choses qui l'intéressent, c'est-à-dire la conservation, etc., les 4 motivations. Par exemple, si vous avez beaucoup de plaisir, le chien qui salive en voyant sa gamelle, ou qui voit une proie, le lion qui voit une proie, son circuit de la récompense va accentuer cette vision pour le pousser à aller manger et à se conserver. On est d'accord. Mais pour faire ça, pour créer ce circuit de la récompense, eh ben, il a fallu utiliser la biologie. On a créé un circuit en particulier qui crée de la dopamine, du plaisir. En voyant le lion qui voit la proie, ben ça va tout de suite faire un excès de dopamine qui va lui donner du plaisir. Mais ce que l'évolution n'a pas prévu, c'est que l'être humain est très intelligent et qu'il a pu trouver des moyens d'accélérer la dopamine sans qu'il y ait de proie, sans qu'il y ait de motivation de base. Par exemple, quand vous fumez une cigarette, eh ben vous excitez votre circuit de la récompense. Quand vous vous droguez, vous excitez votre circuit de la récompense. Pourtant, c'est pas du tout, on satisfait aucun des besoins fondamentaux. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est un peu une déviation un peu de ça. Et ce circuit de la récompense, en fait, il y a d'autres moyens de l'exciter. Ça, c'est les moyens artificiels, je dirais. Par exemple, il y a une expérience que je donne dans le livre. Ou un rat de laboratoire qui a faim, on lui met de la nourriture d'un côté, il a juste appuyé sur une pédale, et sur une autre pédale, il peut appuyer, et ça excite sa dopamine, ça lui envoie de la dopamine. Mais le problème, c'est que la dopamine, ça ne nourrit pas, c'est juste du plaisir. Et bien, on s'aperçoit que le rat, il va appuyer sur la pédale sans s'arrêter, sans se nourrir, il va mourir de faim, il va préférer mourir de faim, simplement pour exciter son circuit de la récompense. Donc vous voyez bien qu'on est en totale opposition avec les motivations essentielles, et l'évolution n'avait pas prévu ce contexte-là. Et maintenant, pour en revenir à l'histoire du gap entre se faire peur et le plaisir qu'on ressent. En fait, c'est lié justement à ce circuit de la récompense. Quand vous faites une grande frayeur et qu'après, je pense typiquement aux fêtes foraines, quand vous allez dans une grande roue, un circuit, les montagnes russes, etc., vous avez peur. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a peur? Eh ben, il y a de l'adrénaline qui apparaît. C'est une, c'est, et ça, ça, c'est pas agréable, l'adrénaline. C'est un peu une tension, etc. Mais si vous avez à la fois cette peur qui est tout de suite immédiatement contrebalancée par une idée de sécurité, c'est-à-dire vous savez que vous risquez rien, vous avez de la dopamine. Et c'est le gap entre, enfin moi c'est la conclusion que j'en ai tirée, c'est le gap entre si vous voulez l'adrénaline et la dopamine qui passe de l'un à l'autre, ça fait qu'on ressent une excitation qui ressent un plaisir intense. C'est un peu la même chose que moi je sais qu'avec mes enfants quand ils étaient petits, on jouait au loup, ils adoraient qu'on jouait au loup, c'est-à-dire qu'ils se cachaient. Moi j'étais le loup, et quand je le découvrais, il poussait un cri d'horreur, et tout de suite après, ils avaient un fou rire. On passe directement du cri d'horreur au fou rire, et pour eux, c'était, ils adoraient ça. Ils venaient me chercher en disant tonton ou papa, viens, on va jouer au loup, au requin, etc. Parce que on passe d'un sentiment de peur, de frayeur énorme, à un sentiment de plaisir intense. Voilà. Et si c'était pas, si le plaisir n'était pas si intense que ça, ils ne viendraient pas me chercher derrière pour jouer avec eux à ce jeu-là.
Parmi les motivations que vous présentez dans votre livre, que vous nous donnez à découvrir et à comprendre, il y en a une dont je me suis demandé si elle ne vous permettait pas de parler également de vous. C'est la motivation de certitude. Car je me suis demandé si c'est celle de l'ingénieur. La curiosité, motivation qui fait partie du contrôle de notre environnement.
Oui, on peut dire ça. Oui. C'est vrai que les ingénieurs aiment bien les certitudes. Cette motivation, elle peut surprendre au premier abord justement la motivation de certitude, parce qu'on peut dire en quoi la certitude c'est une motivation en fait. Mais réfléchissez et puis vous verrez par exemple que ben vous aimez bien des fois le soir. Vous savez que le soir tous les soirs il y a un coucher de soleil. Et ben ça c'est une certitude et c'est quelque chose qui est rassurant. C'est lié à la sécurité. La certitude c'est la sécurité, c'est de se dire je sais que, je contrôle ce qui se passe sur les choses. Voilà, ça c'est la certitude. Quand un ingénieur justement étudie la trajectoire d'un mobile qui est propulsé et qui tombe, il sait à tel instant, il a à telle altitude, à tel instant, il a telle vitesse, etc. C'est le plaisir de la certitude justement de prévoir les choses et qui intervient. Et il sait que, voilà, quand on sait que telle chose... tout être humain, le fait d'avoir des repères fixes, on sait tous qu'on aime bien avoir. On dit tout souvent que les habitudes, ça nous rassure, ça nous sécurise. Ben, c'est exactement ça. C'est ça l'idée, c'est que on est sécurisé par des choses qu'on sait qui sont habituelles, qui vont arriver, qui vont pas nous trahir
et qui sont cohérentes.
Et qui sont cohérentes.
Alors, nous devons bien sûr enjamber les parties de ce livre. J'ai zoomé page 104 et là vous nous mettez en alerte contre finalement l'ego en abordant les thématiques de l'égoïsme et de l'empathie. Vous appuyez notamment en citant Schopenhauer. Ce ne sera pas le seul philosophe, il y en a plusieurs dans votre ouvrage. Vous citez Schopenhauer qui nous inviter à limiter la recherche de plaisir et d'honneur pour être heureux, car ils sont source de déception et ils disparaissent rapidement.
Le souci qu'on a avec l'ego, c'est que l'évolution, c'est toujours un peu la même chose. L'évolution a d'abord œuvré pour la conservation de vous-même, en fait. Donc, en fait, si on regarde bien la construction des êtres vivants, logiquement, ils devraient être auto-centrés sur eux. D'ailleurs, vous le voyez, moi j'ai des animaux, je le vois. S'il y en a un qui peut manger tout parce que l'autre est plus faible, il va tout manger s'il a faim. Et l'autre, il mangera ce qui reste. Il n'y a pas de pitié entre eux. L'être humain, il est un peu construit comme ça à la base. À la base, c'est d'abord lui. L'ego, c'est ce qui concerne. Néanmoins, heureusement d'ailleurs, on a une intelligence plus développée, et puis on a ce qu'on appelle aussi les neurones miroirs. Vous avez peut-être entendu parler de ça, qui sont des neurones qui permettent de se mettre à la place des autres. Voilà. Alors on va se demander pourquoi l'évolution a développé ça, alors que finalement elle ça concerne les autres et pas nous. Ben parce que elle était obligée de le faire, parce que si vous voulez mieux contrôler votre environnement, c'est quand même intéressant de savoir ce que l'autre en face y pense. Si vous savez ce que l'autre pense, vous pouvez prévoir ce qu'il va faire, ce qu'il va dire, et donc c'est mieux pour vous. Mais en même temps, en faisant ça, vous mettez aussi à la place de l'autre, C'est peut-être que l'évolution n'a pas prévu, mais en même temps, elle peut l'avoir prévu parce que justement, ça, l'entraide entre êtres humains, c'est aussi conserver l'espèce aussi. Vous voyez, donc c'est pas complètement contradictoire avec les besoins fondamentaux. Donc le fait de se mettre à la place des autres, ça fait que justement, on va lutter contre notre ego de base, notre égoïsme de base. Notre intelligence aussi nous permet de donner du sens aussi. On s'aperçoit que le sens de vie, je parle beaucoup du sens justement de la motivation de sens, plus loin dans le livre, on s'aperçoit que la motivation de sens, elle est toujours liée aux autres. Elle est toujours liée à l'autre. Vous avez du sens dans votre vie. Ben, quand vous aidez, finalement, l'espèce en général, c'est-à-dire c'est les autres. Vous travaillez dans des associations humanitaires. C'est aussi votre famille. Il y a des gens qui ont du sens simplement en se consacrant à leur famille, en élevant leurs enfants. Pour eux, c'est un sens de vie. Ça peut être aussi en essayant de travailler dans la recherche, etc., etc. Donc, on s'aperçoit finalement les meilleurs sens de vie qu'ont les hommes, ce sont lorsqu'ils aident les autres. Et non pas, donc, vous voyez, donc, c'est en contradiction, voilà, l'ego a été créé pour la sécurité de l'homme, néanmoins, il a des outils qui lui permettent de sortir de ça, et heureusement, d'ailleurs, heureusement.
Et vous citez à l'appui, Lucien Castagnette dit « Lulu par ses proches ».
Lucien Castagnette, c'est quelqu'un qui a, je pense qu'il avait, il me semble que c'était un chef d'entreprise, il a eu un accident grave, il est devenu handicapé. Et il a consacré sa vie après à aider justement les autres handicapés, en particulier en Afrique. Et il a beaucoup investi, il a beaucoup œuvré, etc. Et justement, il a trouvé et il disait justement que ça lui a donné un sens de vie très fort, justement. Quand vous êtes handicapé, ben vous avez, c'est dur, c'est vrai, c'est dur. Mais si vous avez un sens de vie fort, ben ça donne des couleurs à votre vie, ça donne du bonheur de manière forte.
Alors, Yves Asseline, nous avons vu quelques-unes des motivations entre lesquelles nous sommes ballottés quotidiennement, ballottés entre motivation et poison. Il est temps maintenant d'entrer également dans cette partie du livre. Page 243, par exemple, vous évoquez nos petits démons internes que sont l'anxiété et le stress, bien connus par exemple de ceux qui doivent prendre la parole en public, ou bien connus simplement de ceux qui sont en entreprise. À vous lire, ce serait simplement une insuffisance en sérotonine. Donc, le prochain bouquin, ça va être celui du professeur Joyeux, par exemple, ou de tout autre nutritionniste pour que j'équilibre mon alimentation, ou je supplémente en neurotransmetteurs, oligo-éléments, ou je ne sais quoi.
Non, j'ai pas dit exactement ça. J'ai dit que certaines dépressions peuvent être considérées comme des maladies parce que c'est des insuffisances en sérotonine, effectivement. Vous avez des personnes qui sont dépressives par nature, c'est pas de leur faute. C'est parce que leur biologie est faite comme cela et voilà. Donc mais par contre, vous pouvez avoir aussi des dépressions qui sont événementielles. Vous avez une constitution tout à fait normale, mais vous avez des événements très durs et vous allez pouvoir avoir et le stress en fait partie. Le stress c'est pas une insuffisance en sérotonine. Le stress, alors vous avez des gens qui sont plus stressés que d'autres parce que peut-être ils sont biologiquement moins forts, mais vous avez des gens tout à fait normaux qui n'ont pas cette déficience et qui vont aussi être stressés. Ça on est tous soumis au stress.
Mais là, donc c'est voilà. Yves, nous sommes tout de même soumis à quelques injustices de par la nature. Je n'ai pas lu « Question de caractère », votre dernier livre, mais vous y abordez là les différences, je dirais, physiologiques qui peuvent expliquer ensuite qu'on soit plus ou moins soumis au stress.
Alors, je réponds à nouveau à votre question en distinguant bien la partie biologique et la partie état d'esprit. Le stress, ça peut être à la fois effectivement des raisons de manque de sérotonine, par exemple, mais ça c'est très souvent une façon de gérer son mental aussi. Par exemple, c'est ce que j'explique dans la fin du livre, dans les conseils que je donne. Si vous pouvez éviter le stress, il faut par exemple changer ses principes. Il faut accepter par exemple que dans la vie, il y ait des soucis et qu'il y en aura toujours. Moi, je dis toujours, dans la vie, quand il n'y a plus de soucis, c'est qu'on est mort. Des problèmes, il y en a toujours tout le temps dans la vie. Donc, il faut les accepter, faut pas se dire. Beaucoup de gens ont tendance à se dire, moi, c'est ce que je faisais avant, quand j'étais plus jeune. Je me disais, quand j'aurai réussi à faire telle chose, après, je serai tranquille. En ce moment, j'ai plein de problèmes, mais bientôt, ça va être résolu et je vais être tranquille. Mais non, il y a d'autres problèmes qui arrivent. On a toujours des problèmes qui arrivent. Donc, il faut les accepter. Déjà, c'est déjà un premier pas. Il faut pas non plus refuser les joies du moment présent aussi, c'est-à-dire que vous avez des fois vous vous dites ben en ce moment je vais pas m'autoriser à avoir du plaisir parce que j'ai tellement de soucis de cela. Non, il faut accepter, ça n'empêche pas d'avoir des soucis, mais il faut accepter les joies du moment. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont une mentalité, des changements de principe de vie en fait.
Ouais, il y a à travailler sur soi. Vous nous invitez à ne plus se focaliser sur le négatif, alors que c'est dans la nature humaine, hein, pour assurer notre survie. Il faut lâcher prise, là, hein. Il faut arrêter de se répéter en boucle ce qui nous a blessé, déçu, qui peut ruiner une journée. Vous nous invitez et également, par exemple, à mettre fin au compromis. Ça, vous aimez pas le compromis.
Je cite dans le livre plusieurs fois Bronnie Ware, qui est une personne qui a assisté des personnes en fin de vie et qui leur a demandé quels sont leurs plus grands regrets. Vous voyez, donc, et souvent on s'aperçoit dans ces grands regrets, ce qui vient en priorité, c'est de dire que j'ai pas vécu pour moi, j'ai vécu pour les autres, j'ai vécu ce que les autres attendaient de moi. En particulier, il y avait beaucoup de femmes qui disaient, moi dans ma vie, j'ai toujours aimé voyager, j'ai voulu faire du théâtre, etc. Et finalement, je l'ai pas fait parce que mon mari voulait pas, ou parce que j'avais mes enfants, il fallait que je m'occupe de mes enfants, et ceci, et je me disais, je le ferai plus tard. Et finalement, elle avait en particulier une dame qui disait, un jour mon mari est mort, mais moi j'étais tellement fatigué, j'étais j'avais plus le courage de voyager, plus le courage de faire. Alors j'avais toujours rêvé de faire des voyages, et lui voulait pas. Voilà. Et finalement, elle a sacrifié ça, finalement une de ses motivations importantes pour elle, en échange d'une autre motivation qui était peut-être moins importante, qui était celle de sa famille, de son mari, etc. Donc ce que je dis, c'est faut faire attention à ça. Parce qu'après, ça peut faire des regrets. Bonnie Ware le met bien en évidence. Elle le met bien en évidence. Elle montre justement en fin de vie, c'est une bonne idée parce que les gens en fin de vie, ils ont plus de, ils disent ce qu'ils pensent. Ils sont obligés de faire le bilan. Et ça montre bien justement qu'il faut le faire tant qu'on est vivant et pas attendre le dernier moment pour penser à ça.
On est en plein concept de psychologie existentielle. Ne pas sacrifier le sens, ne pas sacrifier ses valeurs, ses envies.
Vous trouvez aussi? Oui, c'est le sens de vie, mais c'est tout à fait ce qui m'intéresse. Ouais. Vous avez raison. Moi, j'ai toujours été passionné par le sens de vie, trouver un sens à la vie et en trouver les raisons et en comprendre le sens. Ouais.
Une dernière recommandation parmi d'autres que vous nous donnez, celle d'arrêter avec l'envie, d'arrêter avec la comparaison permanente. D'ailleurs, vous citez dans votre livre Giacomo Rizzolatti, justement à propos des neurones miroirs évoqués précédemment. Et j'avais envie de vous demander, il n'est pas abordé, hein, mais ça a pu m'échapper, quid du désir mimétique qui nous pourrit en permanence le quotidien?
Mais ça, j'en parle puisque je parle du fait qu'il faut éviter de comparer en fait. Ça revient à comparer. C'est d'ailleurs ce que disait Jean-Jacques Rousseau, hein, vivre tranquille dans son jardin. Il faut éviter de se comparer aux autres, etc. Et c'est un peu vrai, c'est-à-dire que il faut beaucoup de gens, ils sont poussés justement dans cette horloge qui tourne en permanence, ce mouvement permanent. Ils sont tout le temps en train de comparer, de dire ah bah attends, lui il a eu tel poste, moi je veux le même poste. Il a telle maison, je veux telle maison, etc. Et en fait, ce sont des poisons au bonheur. C'est la comparaison. Il y a beaucoup de c'est pas moi qui le dis, hein, c'est beaucoup de philosophes qui l'ont mis en évidence. Et en fait, cette comparaison constante, justement ce que vous appelez ce mimétisme, c'est de regarder ce qu'ont les autres et de se dire moi je l'ai pas, pourquoi moi lui il l'a et moi je l'ai pas. Et en fait, ça nous empoisonne la vie. Il vaut mieux apprendre. Alors je dis pas qu'il faut évidemment il faut que on peut pas vivre sans bien matériel, etc. Mais si on a du plaisir, si on a trouvé notre équilibre avec un certain niveau de vie ou certaines choses, il faut pas forcément envier. Faut pas trop regarder ce qu'ont les autres. Il faut regarder les autres. Vous savez ce que montrent les autres souvent. C'est une image souvent embellie. Il y a des gens, ils ont, c'est pas parce qu'ils ils montent telle image d'eux-mêmes, telle voiture, telle chose comme ça, que chez eux, c'est, ça se trouve, ce sont des gens très malheureux. Et vous, vous avez des richesses en intérieur. Vous avez, voilà, des choses que lui n'a pas. Ça peut être, par exemple, je sais pas, une famille. Ça peut être, vous adorez l'art. Et puis, alors que lui s'ennuie chez lui, par exemple, ou alors qu'il a, il est malheureux dans son couple ou dans son, vous voyez. Il faut jamais envier les autres parce qu'on sait jamais vraiment ce qui se passe chez eux. Donc il faut au contraire regarder son cercle d'amis, son cercle de soi et pas trop comparer. Voilà, c'est ça l'idée.
Dans la course incessante des êtres humains, ballottés chaque jour entre leur motivation et leur poison, nous le voyons en vous écoutant, il y a de nombreuses références à des auteurs, des philosophes. Il y a un instant, vous citiez Rousseau, Spinoza, Aristote, Sartre, Schopenhauer. Là, je vais citer un certain Yves Assouline, puisque, en conclusion, vous nous dites sans motivation, il n'y a pas de vie humaine. Le bonheur et le malheur font partie des lois de la vie et sont aussi des choix. Nous ne devons pas l'oublier afin de profiter de chaque instant de joie, de regarder la vie sous un angle positif et de continuer à réaliser, pour réaliser, ce qui est important pour nous. Ce qui nous motive. Frédéric Lenoir, sors de ce corps.
Tout à fait, j'aurais pas pu mieux le dire. Tout à fait, c'est tout à fait vrai. Voilà, c'est, il faut, comment dire, le bonheur, il vient de l'intérieur. Il vient pas de l'extérieur. Ça rejoint un peu là, ce qu'on a dit tout à l'heure. Je donne un exemple d'ailleurs dans le livre. Je dis par exemple, imaginez vous êtes invité à une réception de mariage. Et puis vous apprenez que pour ce mariage vous allez être placé dans une table où vous connaissez personne. Certaines personnes vont avoir vous pourrez avoir la réaction d'en vouloir à mort à la maîtresse de maison en disant mais qu'est-ce qu'elle m'a mis comme ça, pourquoi elle m'a pas mis avec les gens que je connais, et ça va vous pourrir votre soirée de mariage, et plus la semaine d'avant parce que vous allez ressasser ça. Mais si vous faites un travail mental et vous changez votre façon de voir, vous dites finalement peut-être que le fait d'être avec une table où je connais personne, finalement je vais découvrir des gens finalement ça va être l'occasion de découvrir des gens nouveaux, d'avoir des autres, de faire des nouveaux amis, d'avoir des nouvelles idées. Finalement c'est une chance. C'est pas, vous pouvez le prendre comme une chance et non pas comme un inconvénient. Vous voyez, donc c'est le même fait finalement, on peut le positiver. Alors on peut pas le faire pour tout, mais il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut positiver, alors qu'a priori on pourrait trouver ça négatif. Donc vous voyez, ça, il suffit d'un travail intérieur de soi pour arriver à positiver sa vie. Voilà, ça conclut un peu ce que vous venez de dire.
Et si j'ose en clin d'œil faire une recommandation qui boucle avec le début de l'ouvrage, c'est qu'il faut savoir parfois passer l'éponge.
Tout à fait. Tout à fait, bien sûr. Bien sûr. Vous avez raison, ça peut pourrir la vie de quelqu'un de ne pas savoir pardonner. Voilà, il faut savoir être souple par rapport à ça. Ouais, et savoir passer à autre chose. D'ailleurs, je voudrais citer une référence d'un poète indien que j'aime beaucoup, que j'ai dit dans le livre d'ailleurs, qui s'appelle Rabindranath Tagore, je suis obligé de le lire parce que je ne retiens pas, et qui dit « Ne pleurez jamais d'avoir perdu le soleil, les larmes vous empêcheraient de voir les étoiles. » Je trouve que c'est très beau, parce que ça montre que justement, même dans le malheur, il y a des belles choses qui peuvent rester, qu'il faut pas ignorer.
La course incessante des êtres humains ballottés chaque jour entre leur motivation et leur poison, c'est signé Yves Assouline et c'est dans toutes les bonnes librairies, y compris en ligne. Merci Yves.
Merci Daniel.